va encore beaucoup pleuvoir au bord de la Méditerranée. La France est coupée en deux, moitié ouest, c'est gris et pluvieux, moitié est, c'est calme avec un ciel légèrement voilé. Retour des gelées ce matin, moins 5 à Annecy.
Merci Anissa Haddadi, bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le lundi 19 janvier, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
L'Espagne sous le choc ce matin après une collision mortelle près de Cordoue en Andalousie. Un train à grande vitesse a déraillé avant d'en percuter un autre qui arrivait en sens inverse. Ça s'est produit hier soir. Bilan provisoire très lourd, 21 morts, 24 blessés graves. 49-3 ou ordonnance, le Conseil des ministres du jour tranchera dans la matinée la meilleure façon de faire adopter le budget 2026. Dans l'actualité ce matin également, l'Europe cherche la parade au chantage douanier de Donald Trump à propos du Groenland. Et puis le chaos en finale de Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal. Match émaillé de lourds incidents entre arbitrage plus que suspect et bagarres en tribune. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Espagne en état de sidération après la catastrophe de Cordoue dans le sud. Deux trains à grande vitesse sont entrés en collision hier soir près de la ville d'Adamous en Andalousie. Le bilan encore provisoire est déjà lourd. 21 morts, 24 blessés dans un état grave. Bonjour Christophe Bordet.
Bonjour à tous.
Que sait-on des circonstances de cet accident ?
Alors, ce que l'on sait, c'est que le premier train qui transportait environ 300 passagers était parti de Malaga dans le sud de l'Espagne, direction Madrid. Et c'est sur ce trajet, après un arrêt dans une gare andalouse, qu'il déraille et entre en collision avec un second TGV qui circule en sens inverse avec une centaine de personnes à bord. Le choc est terrible. Des wagons sont projetés sur plusieurs mètres, disloqués. Très vite, les secours, une nuée d'ambulances, arrivent sur place. Tout est complètement détruit, déclare le chef des pompiers qui raconte une scène d'apocalypse. Nous avons dû déplacer des cadavres pour accéder à des personnes vivantes qui avaient besoin de soins, affirme-t-il. Un drame inexplicable pour le moment, selon le ministre espagnol des Transports. C'est un train relativement neuf, qui n'avait même pas 4 ans. Et la voie avait été complètement rénovée. L'accident est extrêmement étrange puisqu'il s'est produit sur une ligne droite. À l'heure qu'il est, les secours continuent d'extraire les corps des wagons transformés en amas de tôle, de ferraille. Le bilan déjà terrible de 21 morts pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures.
Éléments d'enquête en direct, Christophe Bordet, et toutes les liaisons entre Madrid et plusieurs villes du sud de l'Espagne sont suspendues. La France se tient à vos côtés. Réaction d'Emmanuel Macron hier soir sur le réseau X.
Le Conseil des ministres dira dans la matinée l'option retenue pour clore le chapitre budget 2026.
Et quelle que soit la voie choisie, le Premier ministre espère s'attirer la neutralité bienveillante des socialistes. La dernière mouture de ce projet de loi de finances porte quelques marqueurs chers à la gauche, comme la hausse de la prime d'activité. Moins d'économies, plus de dépenses. Les entreprises paieront l'addition. Sébastien Lecornu leur a envoyé un mot d'excuse sous forme de lettre. Le Conseil des ministres va choisir aujourd'hui entre le 49-3 ou les ordonnances, Alexis de la Fontaine.
En effet, ce Conseil des ministres donnera l'autorisation au gouvernement d'activer une de ces deux méthodes dans les prochains jours. Selon les informations d'Europe 1, la piste privilégiée reste le 49-3, une solution poussée en coulisses par Emmanuel Macron. C'est moins martial que les ordonnances, justifie un député Renaissance. En revanche, cette hypothèse est rejetée par l'opinion publique. 59% des Français s'opposent au 49-3. Idem au Rassemblement National et à la France Insoumise qui déposeront une motion de censure. Mais le Parti Socialiste pourrait ne pas la voter, annonce Olivier Faure sur TF1.
La première condition, c'est d'avoir la copie complète, qu'il n'y ait pas de flou. La deuxième, c'est que le financement de toutes ces victoires obtenues et annoncées hier soir ne se fasse pas sur le dos des Français, qu'on ne prenne pas d'une main ce qu'on donne de l'autre.
Si le soutien des socialistes semble acquis, Sébastien Lecornu doit encore obtenir celui des Républicains. Et malgré une hausse des impôts, notamment sur les sociétés, et une augmentation des dépenses de l'État, pourtant deux lignes rouges présentées par la droite, les députés républicains devraient s'abstenir de voter la motion de censure.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
Faire front commun contre Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane. Les 27 dirigeants européens se réuniront cette semaine à Bruxelles pour fixer le cap de la riposte.
Sommet extraordinaire qui pourrait se tenir jeudi. Emmanuel Macron propose l'activation de l'instrument anti-coercition. Reste à savoir si ses partenaires vont suivre cette voie. La Norvège ne semble pas très emballée par cette idée. L'Allemagne renacle un peu et rapatrie ses soldats actuellement en mission au Groenland à cause, dit-elle, des conditions météo. Barthélémy Philippe, qu'est-ce que ce fameux fameux bazooka commercial européen dont on entend parler depuis ce week-end.
Eh bien, l'instrument vise à dissuader les pays qui exercent des pressions commerciales contre l'Union à des fins politiques, comme c'est le cas avec le Groenland. Il ne sera activé qu'en dernier ressort si Donald Trump applique les surtaxes et qu'une majorité qualifiée du Conseil, soit 15 pays de l'Union, se prononce pour. Dès lors, une phase de médiation s'ouvrira avec les États-Unis qui auront le choix, renoncer aux surtaxes ou s'exposer à de lourdes ripostes, comme l'explique l'économiste Antoine Bouet.
La première, ce serait certainement des droits de douane de 15% sur 92 milliards de produits importés des États-Unis. On peut interdire les entreprises américaines d'accès aux marchés financiers européens ou aux marchés publics européens.
L'instrument anti-coercition n'est pas vraiment fait pour être utilisé, mais plutôt pour faire plier l'adversaire par crainte des représailles. C'est le scénario privilégié par Bruxelles, tant l'escalade des tensions serait dramatique. Pour citer un exemple, les États-Unis peuvent annihiler une partie des capacités militaires européennes en désactivant les fonctions clés des avions de chasse F-35, dont l'UE possède de très nombreux exemplaires.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
En Iran, le pouvoir affirme avoir repris le contrôle de la situation.
Accès à Internet à nouveau limité, pourtant après un bref rétablissement, écoles et universités ont rouvert ce week-end. La République islamiste assure que le calme est revenu, mais les massacres se poursuivent. Caroline Baudry.
Les rangs des manifestants s'amenuisent ces derniers jours, mais le régime des mollahs tue toujours à bas bruit. Dans cette soi-disant accalmie, explique Irbod Deganiazar, avocat spécialiste de l'Iran et président de l'association Nowruz pour une nouvelle ère.
Ils ont commencé les rafts dans les maisons pour essayer d'arrêter les gens. Ils empêchent les gens de se faire soigner. Ils ont tellement été dans l'abominable qu'on a l'impression que le retour à la normale serait acceptable, ce qui n'est pas le cas. Déjà avant, les gens étaient pendus haut et court sur la place pour créer la terreur. Ils pouvaient disparaître, ils étaient torturés, violés.
Attention à la propagande du régime, rappelle le spécialiste, en contact étroit avec des confrères sur place grâce au réseau partiellement rétabli mais contrôlé.
Dès qu'ils allument les flux, il y a des véhicules qui captent avec des antennes, ces véhicules tournent dans les rues. Et ils viennent arrêter des gens quelques heures après, un peu partout dans les rues.
Mais le régime est mort, estime cet avocat. Les mollahs tiennent par la force et la désinformation. Et le droit international dispose, selon lui, de leviers pour le renverser.
Caroline Baudry.
Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h07.
Et puis le Sénat s'apprête à relancer le débat sur la fin de vie.
L'une des réformes majeures du second quinquennat d'Emmanuel Macron, l'aide à mourir, revient à partir de demain en séance. Une semaine de débat, vote solennel programmé le 28 janvier. Cyril de la Morinerie s'est rendu dans un EHPAD de Versailles, près de Paris, établissement géré par les Petites Sœurs des Pauvres. Elle s'inquiète de voir l'euthanasie légalisée. Reportage.
Madame Limbourg ?
Oui,
nous voilà.
Germaine, 94 ans, nous accueille le sourire aux lèvres dans sa chambre ouverte sur un jardin. Arrivée ici il y a 2 ans et demi pour y vivre les derniers moments de sa vie, elle ne comprend pas que l'on puisse peut-être bientôt légaliser en France l'aide à mourir.
La fin de vie ici, c'est une vie qui continue. On peut aller jusqu'à la fin de vie quand on est bien accompagné.
Pour vous, la vie est sacrée ?
Bien sûr.
Dans cet établissement tenu par les Petites Sœurs des Pauvres, l'équipe médicale veille jour et nuit sur les personnes âgées. Madeleine, aide-soignante, a vu de nombreux résidents reprendre goût à la vie.
Des fois, quand ça arrive que le résident dit « je veux partir, je suis fatigué », mais après, quand ils sont bien accompagnés, ils changent d'avis. Non, je ne pourrai jamais donner la mort. Jamais de la vie.
Et cette proposition de loi sur la fin de vie fait naître de vives inquiétudes à Sœur Marie-Christine, mère supérieure de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres à Versailles.
Elle nous inquiète parce qu'elle est assez coercitive. C'est difficile de trouver un sens pour accompagner la vie, pour que ça se termine comme ça, de façon aussi brutale. En tout cas, il faut qu'on fasse tout ce que nous pouvons pour que nous gardons notre... c'est une clause de conscience, tout simplement.
La Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres entend continuer sa mission, accompagner les personnes âgées jusqu'à leur mort naturelle dans le respect et la dignité.
Cyril de la Morinerie.
Le football, le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, 1-0 contre le Maroc, les sifflets, les bagarres en tribune avec un début d'échauffourée en tribune de presse entre journalistes. Oui, match totalement chaotique, triste soirée. 1-0 à la fin, mais on retiendra la confusion au cours de laquelle les Sénégalais ont momentanément quitté la pelouse après un pénalty plus que contestable accordé aux Marocains.
Ouais, on écoutera un peu d'ambiance du stade hier, complètement chaotique. Effectivement, c'est vraiment pas à la hauteur du football mondial. Tout à l'heure dans le journal de 7h30. Merci beaucoup, Christophe. Christophe Lamarre, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito écho d'Olivier Babeau.
On reviendra sur cet énième épisode du feuilleton justice fiscale. L'ancien ministre de l'économie classé à gauche, Éric Lombard, estime que parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de zéro. Ils ne payent aucun impôt sur le revenu. Alors vrai ou faux? On va voir ça avec Olivier Babeau dans un instant.
Et puis Laurent Tessier arrive à 7h22 sur Europe 1.
Bonjour Laurent.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa.
Bonjour Laurent.
État raciste, haine anti-flic, tous les coups sont permis avec la France insoumise avant les municipales.
A tout de suite.
Et dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin.
Il dénonce un silence éthique insoutenable, assourdissant sur le sujet de la fin de vie. Le professeur d'éthique médicale Emmanuel Hirsch nous rejoint dans un instant sur Europe 1, 7h09. Bon réveil.
7h-9h, Europe 1 matin.
Professionnel, vous avez besoin d'un utilitaire pratique et abordable? Découvrez Citroën Berlingo Van à seulement 159 euros hors taxes par mois. Modulable et économique, il s'adapte à toutes vos missions au quotidien. Il est disponible immédiatement en stock limité et bénéficie de jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Découvrez également Berlingo Van XTR, notre version suréquipée. Rendez-vous vite dans votre point de vente Citroën.
Citroën.
Crédit bail 60 mois, 100 000 km. Premier loyer de 5700 euros hors taxes. Offre professionnelle jusqu'au 31 janvier. Si acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr.
À tous ceux qui se lèvent le matin, se douchent, se brossent les dents, se brossent les cheveux et qui se mettent une touche de parfum avant de partir. Bah ouais, comme tout le monde quoi. On n'est pas des cracras. L'hygiène et la beauté, on ne peut pas faire sans. Alors dès mardi chez Intermarché, on vous rembourse 100% de vos achats en deux bons d'achat sur le rayon beauté. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 25 janvier, des 35 euros d'achat et dans la limite de 45 euros. Réservé aux porteurs de la carte. Exclusion, modalité et magasins participants sur intermarché.com.
Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Renault. Dans la vie, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut débattre. Des sujets qui divisent, qui rassemblent ou font réfléchir. Mais la santé, elle, ne devrait pas faire débat. Pourtant, aujourd'hui, elle reste un enjeu pour beaucoup. Alors chaque jour, le groupe Vive agit pour que vous soyez bien soignés, bien protégés et bien logés.
Parce que la santé est un droit, le groupe Vive, groupe mutualiste de santé et de protection sociale, agit grâce à ses mutuelles et à son réseau d'établissements de soins et de logements pour que personne ne soit laissé de côté. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Groupe Vive, organisme régi par le code de la mutualité.
7h-9h,
Europe 1 matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le professeur émérite d'éthique médicale, Emmanuel Hirsch.
Bonjour Emmanuel Hirsch. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, membre de l'Académie de médecine. Aussi votre dernier livre, Euthanasie, le dernier acte, point d'interrogation, paru aux éditions du Cerf. C'est en effet la question qui va se poser une fois de plus au Sénat demain. La proposition de loi sur la fin de vie revient donc à partir de demain auprès de la Haute Assemblée. Alors pour rappel, c'est le texte qui prévoit de développer les soins palliatifs d'un côté, mais aussi la création d'un nouveau droit à l'aide active à mourir. C'est dans ces termes que les députés l'avaient adopté en mai dernier. Depuis, le texte est passé entre les mains de la Commission des affaires sociales du Sénat, qui l'a largement modifié. On parle plus de droit, mais d'assistance médicale à mourir, ce qui suggère une procédure qui serait plus encadrée, mais procédure quand même, au grand dam d'ailleurs de l'auteur de la proposition de loi, Olivier Falorni. Emmanuel Hirsch, vous faites partie des opposants à la création de cette aide à mourir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ?
D'abord, je ne suis pas un opposant. Je suis un citoyen qui se pose un certain nombre de questions. Et j'ai vu une évolution progressive de la loi, comme en bioéthique. On a eu, rappelez-vous, en 2012, le président de la République, à l'époque, c'était M. Hollande, qui avait remis en cause la loi de 2005, la loi Leonetti. Et donc, on est arrivé à la loi de 2016. Et aujourd'hui, on remet en cause la loi de 2016. Donc, à chaque fois qu'on remet en cause, on brade un certain nombre de valeurs et on remet, pour moi, en cause un certain nombre de principes. Donc, pour en arriver à la situation aujourd'hui, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la Commission des affaires sociales du Sénat a repris la loi de 2016, du 2 février 2016, mais finalement, en considérant que la sédation... Voilà, Claes-Leonetti, en considérant que la sédation profonde et continue jusqu'au décès pouvait être aussi une sédation euthanasique. Et donc, aujourd'hui, ce qui va se présenter dans le débat au Sénat, c'est pour ou contre l'euthanasie. Alors, quand on dit il y a un encadrement, effectivement, les sénateurs ont voulu mettre un peu plus de prudence. Mais quand on sait que toutes les prudences qui avaient été évoquées, y compris à l'Assemblée nationale, ont été révoquées, c'est-à-dire tous les amendements qu'elle est dans le sens d'un arrangement qui permette vraiment de contrôler les choses, avec par exemple l'approche spécifique des maladies psychiatriques, pour prendre l'exemple, la faculté de discernement, avec le délit d'entrave, qui était aussi quelque chose de très scandaleux, puisque aujourd'hui, si une personne fait une tentative de suicide et puis qu'une personne, un médecin ou un soignant, l'incite à plutôt aller dans le sens de la vie, ce qui doit se faire, il peut être mis en cause aujourd'hui. Donc, pour en arriver à répondre à votre question, je ne suis pas un opposant. Je vis depuis des années, ça fait partie de mon engagement éthique, auprès de personnes en situation de vulnérabilité, auprès de personnes qui souffrent et qui attendent de notre société une réponse. Et depuis des années, plus on évolue, plus je comprends que la réponse, c'est certainement pas l'euthanasie, c'est-à-dire vous n'avez plus votre place parmi nous. Et ce qui est évident, c'est qu'on risque, puisque c'est un choix du président de la République. On a eu donc François Hollande. Maintenant, c'est l'engagement essentiel pour terminer son mandat présidentiel. Emmanuel Macron a considéré que l'urgence pour l'ensemble des Français, vous voyez dans quel contexte on est au niveau sociopolitique, c'était de légiférer sur l'euthanasie et qui garderait, j'allais dire, les Français mémoire d'un grand président.
Voilà. Je vais faire un peu le tableau, parce qu'on sait aussi que les soins palliatifs, ils existent en France, mais alors, il en manque la moitié. Vous avez 20 départements où il n'y a aucune structure alors qu'elle devrait exister. Et alors, dans une tribune parue hier dans le journal du dimanche, vous dites, Emmanuel Hirsch, ces mots m'ont profondément troublé, mais je pense que vous avez raison. Vous dites, vous pensez qu'en en légalisant la mort provoquée, inéluctablement, on va glisser du droit à mourir au devoir de mourir, socialement encouragé, sous la pression sociale.
C'est assez évident parce que c'est une tribune qu'on a co-signée avec Michel Houellebecq et avec Laurent Frémont, qui est maturée, c'est-à-dire c'est notre dernière tribune, j'allais dire, avant le désastre. Donc on a essayé de faire valoir les enjeux fondamentaux.
Vous dites avant le désastre parce que vous pensez que c'est plié là. Hein.
C'est plié parce qu'on n'est plus dans la rationalité, on n'est plus dans l'éthique, on est dans le politicien, d'accord ? Et vous voyez, vous l'évoquez souvent, ne serait-ce que pour le budget de la France, on n'est plus véritablement dans un engagement fort des politiques, on est dans des renoncements. Et donc c'est un cumul de renoncements. Donc quand j'ai vu ce qui s'est passé au Sénat, alors que j'analyse la situation depuis des années, cet effondrement de la conscience politique en termes de défense des concitoyens les plus vulnérables. Donc on est effectivement dans un effondrement. Et quand vous regardez tous les pays qui nous ont procédé, sur 195 pays dans le monde, il y en a 10 qui ont légiféré. Donc on a un recul, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et le recul, par exemple, au Canada, pour prendre un exemple précis, où vous êtes avec 40 000 personnes qui n'ont pas bénéficié, mais qui meurent euthanasiées.
Par an ?
40 000 personnes par an. Ce qui fait à peu près 6,8% de la population concernée. Donc faites la projection. On nous a parlé d'exception, d'une loi d'exception. Oui. Effectivement, ça serait une loi d'exception.
J'ai un autre chiffre sur le Canada. 39% des euthanasies non liées à une phase terminale sont motivées par l'isolement social.
Mais dans les prises de position opposées à l'avancée, si on parle d'ouverture ou d'avancée du Sénat, les plus revendicatifs, notamment l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, dit « Mais vous savez, vous mettez nouveau des critères, notamment sur des douleurs réfractaires, sur le fait que la personne est vraiment en fin de vie. Mais c'est pas ce qu'on souhaite. Et vous savez que ces lois, c'est lois pour le droit des personnes et des personnes en fin de vie. Donc on voit que dans tous les pays qui ont légiféré, et le Canada, par exemple, va maintenant évoluer dans sa loi, puisque elle évolue depuis 2016.
Le droit
et là, ça va être les personnes en situation de handicap mental. Vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique, en Hollande, les enfants... Je suis pas en train de faire l'inventaire de toute la dérive. Mais quand on voit qu'il n'y a plus aucune règle aujourd'hui qui tienne, que tout se relativise, tout se discute, et quand moi je prends position, j'ai l'air d'être un extrémiste, je suis un extrémiste des valeurs d'humanité, je suis un extrémiste des valeurs de la démocratie. Et nous dire que la loi de la République, liberté, égalité, fraternité, va autoriser l'euthanasie ou le suicide assisté, avec un impact fondamental sur les plus vulnérables, dès lors que vous avez une norme. D'accord ? Moi, je le vois sur le terrain aujourd'hui. En psychiatrie, par exemple, les gens disent la loi, elle va être votée, donc la norme, c'est-à-dire la loi de la République, c'est là où est le sens, c'est là où est la valeur d'une société. Donc au nom de quoi on va s'offusquer ? Et de mettre ça dans le code de la santé publique, qu'on fasse évoluer éventuellement la loi sur des situations précises, pourquoi pas ? Mais le code de la santé publique, la déontologie médicale, vous voyez dans quel contexte aujourd'hui les praticiens hospitaliers évoluent. Donc on est en train, j'allais dire, de nous verser, de nous faire verser, de nous inciter, avec un modèle soi-disant bienveillant, à être dans une situation de rupture et de rupture éthique. C'est pour ça qu'on a fait ce plaidoyer dans la tribune.
Merci beaucoup Emmanuel Hirsch. On peut lire votre texte, il est en libre accès hein, sur le site internet du JDD, et c'est dans le journal papier aussi. Merci d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle votre dernier livre, Euthanasie, le dernier acte, point d'interrogation, paru aux éditions du Cerf. Bonne journée à vous Emmanuel Hirsch.
Il est 7h19 sur Europe 1.
Votre édito écho dans un instant, Olivier Babeau, juste après le journal permanent, Christophe Lamarre.
L'Espagne sous le choc après la collision mortelle entre deux trains à grande vitesse hier soir près de la ville d'Adamus en Andalousie. 21 morts, 24 blessés dans un état grave, bilan encore provisoire. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez parle d'une nuit de profonde douleur. 5 départements du sud de la France en vigilance orange crue inondation. Situation critique à Narbonne dans l'Aude où le préfet a ordonné hier soir l'évacuation de 2 quartiers de la ville. École du département fermée et transport scolaire suspendu toute la journée. La crise au Groenland. L'Europe cherche la parade au chantage douanier de Donald Trump. Un sommet extraordinaire des 27 dirigeants européens est prévu cette semaine. Emmanuel Macron demande l'activation de l'instrument anti-coercition. Et puis le chaos en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football remportée par le Sénégal 1-0 face au Maroc pendant les prolongations. Match émaillé de lourds incidents entre arbitrage suspect et bagarre en tribune.
L'édito écho avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent.
Et à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito écho.
Bonjour Olivier Babeau.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa,
bonjour Olivier.
À tous.
Vous revenez sur une interview à Libération d'Éric Lombard, l'ancien ministre de l'économie. Vendredi, il dénonçait ces riches qui échapperaient à l'impôt.
Oui, il déclarait, je cite, « Parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de zéro. Ils ne paient aucun impôt sur le revenu. » Un peu plus tard, Amélie de Montchalin a répondu dans l'hémicycle « Il n'est pas vrai que des dizaines de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. » Bon, Éric Coquerel sur LCP, après une visite à Bercy, a parlé il y a quelques jours de plusieurs dizaines de milliers dont les revenus fiscaux ne sont pas nuls, mais très inférieurs à leurs revenus économiques estimés.
Qu'en est-il vraiment ? On ne comprend plus rien là.
Cette affirmation joue sur une confusion volontaire entre revenu et une notion proposée par certains économistes, le revenu économique, qui comprend les bénéfices de sociétés non versés en dividendes et remontés vers les holdings.
Donc il y a bien absence d'impôt sur ce revenu économique dont vous nous parlez là.
Et le problème c'est qu'avec cette notion de revenu économique qui est tordue, on ne comprend plus rien en effet. L'impôt sur le revenu, il porte quoi ? Sur le revenu perçu, pas sur les actifs d'une entreprise, pas sur la richesse supposée. Si vous ne percevez pas de revenu, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. C'est vrai pour tout le monde, riche comme non riche.
Mais comment on peut vivre sans revenu quand on est riche ? Comment on peut être riche sans revenu ?
En laissant les bénéfices dans une entreprise ou une holding, en ne se versant que pour financer ses besoins de consommation qui peuvent être faibles par rapport à son patrimoine. Et c'est là que le débat devient idéologique. Une holding, c'est pas un compte personnel déguisé. C'est une personne morale distincte de la personne physique.
Donc si je vous suis, l'argent qui est dans une holding, ça n'est pas un revenu.
Exactement. Et il faut le dire une chose. Il est absolument normal et économiquement sain que ceux qui possèdent des entreprises ne se versent pas l'intégralité de leurs bénéfices. C'est un capital destiné à être investi, réinvesti, mobilisé pour financer des projets, racheter des entreprises, soutenir l'activité.
Alors certains disent pourtant ils gagnent de l'argent mais ils ne le déclarent pas.
C'est une façon fallacieuse de le présenter. Pardon de cette lapalissade, mais des dividendes non distribués, n'ont pas été distribués. Et prenons une comparaison que chacun va comprendre. Dans votre assurance vie ou votre PEA, vous ne payez pas d'impôt tant qu'il n'y a pas de retrait.
Oui.
Personne ne paie d'impôt sur la plus-value de sa maison tant qu'elle n'est pas vendue. Pourquoi ce qui est admis pour n'importe qui deviendrait soudain scandaleux quand il s'agit d'un entrepreneur ?
Alors, on entend aussi Olivier parler de dirigeants qui vivent à crédit.
Oui, alors là encore, il faut être précis. Certains très hauts patrimoines peuvent utiliser des crédits lombards, oui, ça s'appelle comme ça, adossés à des actifs financiers. Mais à un moment, ces crédits, il faut vendre un actif, dégager un revenu ou distribuer des dividendes pour les rembourser. Et ce jour-là, l'impôt est payé.
Alors certains proposent de taxer les holdings ou le patrimoine directement. Qu'en pensez-vous ?
Taxer les holdings, c'est, il faut le dire, pénaliser l'investissement productif. Ce sont elles qui financent les entreprises familiales et l'économie réelle. Cet argent, il est utile à l'économie et à court terme, ça peut rapporter quelques milliards fiscaux, mais à moyen terme, ça affaiblirait la base productive, donc les recettes fiscales elles-mêmes.
Signature Europe 1, Olivier Babeau. Merci beaucoup Olivier, bonne journée à vous.
C'était l'édito Écho avec Banque Populaire. Engagé aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous. I'm free.
7h23 sur Europe 1, l'heure de retrouver Laurent Tessier.
Bonjour Laurent.
Bonjour à tous.
Vous nous dites ce matin que la campagne des municipales va être terrible.
Tous les coups sont permis, toutes les insultes, les menaces, tous les clichés. La France insoumise n'a plus aucun filtre. Des attaques contre la France, l'État. Vendredi, la députée européenne LFI Rima Hassan a pris la parole à la Courneuve en Seine-Saint-Denis pour soutenir le candidat au municipal Ali Diouara.
Dans un État raciste qui relativise son histoire coloniale, voire qui la glorifie, son nom, la couleur de sa peau, c'est politique. Dans un état policier, manifester, s'exprimer, c'est politique. Il n'y a qu'une seule façon de s'affranchir de ces chaînes, élire celles et ceux qui nous ressemblent.
État raciste, État policier. Et en plein meeting, Rima Hassan s'est attaquée avec une très grande violence à l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.
Alors je sais que Retailleau et tous ses prédécesseurs n'ont eu de cesse de désigner les musulmans et les immigrés comme les tout premiers responsables de tous les malheurs de la France. Alors j'ai une chose à lui répondre ce soir à Retailleau. Abba Retailleau, bien sûr, bien sûr.
Abba Retailleau, un appel à la haine en plein meeting sous les applaudissements. Aucune réaction tout le week-end dans l'espace médiatique. Ça passe, personne n'a réagi et dénoncé. Des élus se permettent tout. Des attaques aussi chaque semaine contre nos policiers. Le député LFI Sébastien Delogu, candidat à la mairie de Marseille, était présent samedi à Villeneuve-d'Ascq pour soutenir Hugo Bernalicis au municipal.
Je ne sais pas si vous avez entendu la dernière fois, mais j'ai pris la parole à l'Assemblée et j'ai expliqué qu'il y avait des kilos de cocaïne qui ont été commandés par l'État et qui avaient disparu et que l'argent était caché dans les commissariats.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a condamné hier après-midi les propos. Réaction aussi du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Total soutien à nos forces qui luttent sans relâche contre le narcotrafic, tout particulièrement à Marseille. Rien ne les intimidera. Fin de citation. Dans l'espace médiatique, vous avez aussi le festival de l'émission Quotidien sur TMC. Vendredi soir, l'un des chroniqueurs s'exprimait devant l'ancienne finaliste de la Star Academy, Ebony.
Vous auriez pu gagner si vous aviez chanté un peu mieux.
Ou
si la France était un peu moins raciste.
Voilà.
Vous avez subi une campagne de cyberharcèlement complètement gratos et violente qui m'a donné l'impression que la France était devenue un gros département du Var.
Les habitants du Var apprécieront et le racisme anti-blanc vécu par l'autre finaliste Marine Nansa, par exemple, ça n'a pas existé.
Marine, victime, comme CNews l'avait rappelé, de racisme anti-blanc. Ce fléau qui touche, d'après les chiffres de l'INSEE, absolument personne. Et qui fait zéro dégât dans des régions comme nulle part sur Loire.
Le déni de l'espace médiatique, les attaques de LFI contre l'État, les policiers, cette campagne des élections municipales est déjà terrible, Dimitri.
Merci Laurent Tessier, le rédacteur en chef de Pascal Pro et vous. 16h-18h tous les jours sur Europe 1. Un numéro pour intervenir à l'antenne, Anissa Dadi.
Le 01 80 20 39 21 pour dialoguer avec Pascal Pro tous les jours, 16h-18h. C'est un numéro non surtaxé.
Allez, place au jeu d'Europe 1.
Et nous sommes lundi, c'est donc le jour de découvrir le nouveau cadeau que vous offre Europe 1, puisque Europe 1, votre radio, vous offre une parenthèse de bien-être à l'hôtel Thalazur Carnac, l'une des 9 escales de la collection Thalazur. L'hôtel Thalazur Carnac, ancré dans la baie de Quiberon, à proximité du golfe du Morbihan, est un lieu d'élégance, de confort, de soins. Votre séjour escale détente zen de 3 jours et 3 nuits pour 2 va vous permettre de vous ressourcer, de vous détendre. Europe 1 vous a réservé 9 soins individuels d'eau de mer, avec bain hydromassant, mais aussi un accès libre au spa marin, à l'espace hammam, au sauna. Vous allez pouvoir retrouver les 9 escales de la collection Thalazur sur thalazur.fr ou alors pendant le salon Les Thermalis, c'est du 22 au 26 janvier au Carrousel du Louvre à Paris. Et félicitations à Olivier qui écoute Europe 1 à Courserac en Charente-Maritime. Olivier, c'est vous qui remportez le magnifique voyage au Vietnam qui était en jeu la semaine dernière.
Les bateaux dragons, tout ça, sympa. La question du jour, la voici toute cette semaine. Le site et l'appli d'Europe 1 vous propose de redécouvrir une émission culte du patrimoine d'Europe 1, le 5-6-7 Jakubowicz. On est entre 73 et 75. L'idée, c'est de faire chanter à des artistes les succès des autres. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, Claude François interprète une chanson de Michel Delpech, Les Divorcés. En quelle année cette chanson, Les Divorcés, est-elle sortie? Était-ce 68 ou bien 73?
Allez, pour tenter votre chance ce matin et peut-être avoir autant de chance qu'Olivier, vous envoyez Thalasso par SMS au 7-39-21, deux fois 75 centimes plus coût du SMS, vous répondez à la question du jour et chaque jour un gagnant est tiré au sort parmi les inscrits et remporte un abonnement de 3 mois au JD News, votre magazine d'actualité en kiosque tous les mercredis. Notez qu'à 8h10, Sébastien Chenu sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le député RN du Nord face à Sonia Mabrouk, c'est dans 3 quarts d'heure. Votre journal dans un instant sur Europe 1.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Renault. Distinguo Banque, l'épargne en toute simplicité.
À ton tour. Et joue ton meilleur coup.
Je l'ai déjà fait.
Ah oui ? Avec ta tour ou ton cavalier ?
Non, j'ai ouvert un livret Distingo Bank avant de venir. Taux boosté, plus une prime de bienvenue, stabilité, vision, sécurité. Tout ce qu'il faut pour pas se faire mater.
Oh, et moi qui pensais avoir l'avantage.
Tu l'avais ? Avant que je joue Distingo. Allez, ressaisis-toi. Va sur distingobank.fr.
Offre soumise à condition, taux promotionnel en vigueur pendant 3 mois dans la limite du plafond. Voir conditions sur distingobank.fr.
C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit-fils.com.
Jusqu'au 28 janvier, embarquez pour l'élégance à prix de rêve avec le rendez-vous Air France.
Wow.
Avec Air France, c'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde, par exemple Dubaï, à partir de 599€ au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France.
Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 26 janvier au 15 février 2026 et du 9 au 29 mars 2026.
Europe 1.
La météo avec Avenir Rénovation. Votre partenaire confiance pour tous vos travaux. Avenir-rénovation.fr.
Le temps, Anissa Dadi, très perturbé au bord de la Méditerranée ce matin.
5 départements vigilance orange, l'Aude, les 2 départements Corse, les Pyrénées-Orientales sont en vigilance pluie, inondation, et puis l'Hérault et l'Aude en vigilance crue. On a une situation préoccupante que l'on va surveiller de près du côté de Narbonne avec de nombreuses inondations, des départements, des débordements dans le Gard, en Lozère également, du côté de l'Hérault et puis en Corse, et il va pleuvoir encore une grande partie de la journée. C'est un épisode méditerranéen qui touche maintenant le golfe du Lion depuis 72 heures avec des cumuls importants, hein, plus de 250 mm par endroit. On a du vent également au bord de la Méditerranée. Sur le reste du pays, on a une France coupée en deux avec un ciel couvert et pluvieux sur toute la moitié ouest. Sur la moitié est, des brouillards ce matin entre l'Alsace et la Bourgogne et un ciel plus calme, un temps plus calme avec un ciel légèrement voilé cet après-midi sur toute la moitié est du pays. Moins 5 à Annecy, moins 2 à Belfort, 12 degrés à Marseille ce matin, 4 à 16 degrés cet après-midi.
Merci Anissa Dadi, bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1.
Europe 1 matin,
7h, 9h.
Dimitri Pavlenko.
Europe 1 vous emmène ce matin dans l'enfer du tunnel des Halles à Paris. Vie clandestine, trafic de drogue, vol. Résultat, un quotidien invivable pour les habitants. Reportage dans un instant. La reprise des travaux de la commission d'enquête sur la neutralité de l'audiovisuel public. De nombreuses auditions très attendues et de nouvelles règles aussi pour les députés présents. Vous l'entendrez. Et puis une finale de Coupe d'Afrique des Nations bien triste pour le foot africain. Terrain envahi, chaises qui volent. Hier soir, le Sénégal s'impose au bout du suspense face au Maroc. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Théo Grévin. Bonjour Théo.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Châtelet-Les-Halles, quartier central de Paris, devenu l'illustration parfaite de l'insécurité grandissante qui touche la capitale. Violence, vol et surtout trafic de drogue. Depuis des mois, le tunnel des Halles est devenu un repère, notamment pour les consommateurs de crack et d'héroïne, au détriment des riverains et des commerçants du quartier qui subissent de plein fouet la hausse de l'insécurité. Reportage Europe 1, Romy Azoulay.
Dès l'entrée du tunnel, on est saisi par une odeur pestilentielle d'urine et de crasse. Une lumière crue, basse, inonde d'un sol jonché de seringues usagées et de vêtements sales. Dans les recoins, des petits groupes éparpillés, des hommes, des femmes au ralenti, zombifiés par la drogue. Ils sont plus de 400 toxicomanes ici, explique Aurélien Véron, conseiller LR de Paris Centre.
C'est un mouroir permanent. Certains dorment et vivent là. D'autres descendent pour prendre leur crack ensemble. Quelques riverains ont été agressés, notamment quand ils rentrent dans les immeubles en forçant les portes cochères, quand ils essaient de les escalader. Dans les terrasses de restaurants, ils se servent dans les assiettes ou dans les magasins brutalement. Personne n'ose intervenir.
Juste en face de l'entrée du tunnel, Sylvie a dû fermer définitivement sa boulangerie. Ça faisait 10 ans qu'elle s'était installée ici, le rêve de sa vie. Mais à cause des toxicomanes, son quotidien était devenu un enfer.
J'arrivais à 3h30 du matin. Quand ça sentait bon, dès le matin, ça les attirait. Ils se battaient, ils criaient. D'ailleurs, ça empêchait de dormir les voisins. Quelques-uns qui ont été plus virulents en me menaçant de brûler ma boulangerie, me menaçant de mort. mort. J'ai eu beaucoup de conséquences sur mon chiffre d'affaires, 24% en moins dans l'année.
Depuis un an, la police évacue régulièrement la population du tunnel, mais à chaque fois, les occupants reviennent quelques jours plus tard.
Reportage Romy Azoulay, l'insécurité en jeu principal en vue des prochaines municipales. Premier tour des élections le 15 mars à Paris, la bataille est lancée entre Emmanuel Grégoire, successeur de la maire sortante Anne Hidalgo, et Rachida Dati. Hier, pour son premier meeting de campagne, la candidate LR a installé un face-à-face avec le candidat de gauche. Écoutez.
Emmanuel Grégoire, il a beau vouloir le faire oublier, il est le candidat de la majorité sortante. Il est le co-auteur, l'héritier direct du grand déclassement de Paris. Il est le concepteur d'un plan local d'urbanisme confiscatoire. On veut vous exproprier, mais pour quoi faire ? C'est pour transformer Paris en une ville de logements sociaux. Il a été premier adjoint. Il porte pleinement la responsabilité de l'inaction de la ville face à l'explosion de la violence.
Rachida Dati, hier, lors de son premier meeting de campagne, elle annonce par ailleurs qu'elle quittera le gouvernement avant les élections municipales.
La ministre de la Culture, qui siégera ce matin au Conseil des ministres, qui marquera la fin d'un long feuilleton budgétaire.
49-3 ou ordonnance, Sébastien Lecornu tranchera et choisira aujourd'hui l'outil couperet en vue d'une adoption sans vote du texte. Pour éviter la censure, les grandes entreprises vont être mises à contribution. Une nouvelle fois cette année, 300 groupes concernés, les baisses d'impôts qui leur avaient été promises devraient passer à la trappe.
À l'Assemblée nationale maintenant, les travaux de la commission sur l'audiovisuel public reprennent.
Après une interruption en décembre, puis une suspension par son président pour une mise au point sur un socle de règles. Conséquence, les députés reprennent leurs travaux avec l'interdiction de diffuser les extraits des auditions en direct sur les réseaux sociaux. Maïalène Trémollet.
Cette commission n'est pas un tribunal médiatique ou politique. C'est sur ce motif que Jérémy Patrilétus, son président, choisit de restreindre les possibilités de diffusion en direct. Une décision qui vise directement Charles Alloncle, rapporteur et député UDR, accusé de vouloir surmédiatiser les auditions. Mais pas question pour l'élu ciotiste de changer de méthode, même dans ce climat de tension. S'il a accepté les règles imposées début janvier par le bureau pour permettre la reprise des travaux, le rapporteur insiste néanmoins sur la nécessité publique de cette commission d'enquête et assume d'être insistant dans ses questions. Pour cette nouvelle phase d'audition, Charles Alloncle veut se consacrer à l'hyperconcentration des contrats de production chez France Télévisions, notamment concernant la société Media One détenue par Mathieu Pigas. Au programme, une table ronde cet après-midi consacrée à la production audiovisuelle, avant l'audition du comité d'éthique de Radio France dès demain, puis de plusieurs figures phares de l'audiovisuel public début février, comme Léa Salamé ou encore Laurent Delahousse.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Le bilan s'aggrave, au moins 39 morts, plus de 30 blessés graves. L'Espagne se réveille endeuillée ce matin, quelques heures après le terrible accident ferroviaire survenu près d'Adamous, dans le sud du pays. Un train grande vitesse parti de Malaga en direction de Madrid a déraillé, envahissant la voie opposée au moment où circulait un autre train. Le trafic sera interrompu sur la ligne toute la journée.
Et puis le football, dans la confusion et le chaos, le Sénégal brise le rêve du Maroc et remporte sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations.
Victoire 1-0 des Sénégalais hier soir à Rabat, les deux sélections les plus attendues de la compétition se sont affrontées pendant plus de 120 minutes. Cyril de la Morinerie, vous avez suivi cette rencontre pour Europe 1. Rencontre dingue au scénario complètement lunaire, on peut le dire, Cyril.
Oui, lunaire. Cette finale va rester dans les annales en raison d'une prolongation irréelle et d'un arbitrage maison en faveur du Maroc. En l'espace de 2 minutes, l'arbitre sauve provisoirement les Marocains en sifflant une faute imaginaire sur Achraf Hakimi, puis accorde un pénalty justifié au Lion de l'Atlas. Décision qui provoque la colère des supporters sénégalais qui tentent d'envahir le terrain. Furieux, les joueurs du Sénégal protestent puis quittent la pelouse. L'interruption va durer au moins 10 minutes. Finalement, la star Sadio Mané va chercher ses coéquipiers au vestiaire pour qu'ils reprennent le match. Et dans un brouhaha assourdissant, le Marocain Brahim Diaz tente une panenka et rate son pénalty. Le Maroc, qui va terminer le match à 10, ne s'en remettra pas d'une frappe limpide. Pape Gueye offre la victoire au Sénégal. Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, au micro de beIN Sport, est consterné.
L'image qu'on a donnée de l'Afrique aujourd'hui, c'est un peu honteux. Quand un entraîneur il demande à ses joueurs de sortir du terrain, tant mieux pour lui. Bon, comme je dis à la fin, il faut toujours rester classe dans la défaite comme dans la victoire. C'est pas classe, mais c'est pas grave. Il est champion d'Afrique, donc il a le droit de dire ce qu'il veut. Ça a pas aidé Brahim. C'est pas une excuse de la façon dont il l'a tiré, mais voilà, on va pas revenir en arrière. Il l'a tiré de cette manière-là, et voilà, on regarde de l'avant.
Les supporters sénégalais sont repartis sous la pluie mais dans la joie du stade de Rabat. Victorieux, les coéquipiers de Sadio Mané vont préparer la prochaine Coupe du Monde où ils affronteront la France en juin prochain à New York.
Merci Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Merci beaucoup Théo Grin. Chapeau à Sadio Mané, le capitaine sénégalais, parce qu'il a eu une attitude de capitaine en retournant chercher ses joueurs qui ne voulaient plus aller jusqu'au bout de la rencontre. Enfin, ce match quand même pose vraiment des questions sur le niveau du football africain, pas sur le terrain, mais vraiment dans le reste, l'organisation. C'est un vrai sujet, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Théo. Dans un instant, votre édito international sur Europe 1. On retourne à Nuuk, au Groenland. On aime bien. Épicentre des tensions entre l'Europe et les États-Unis. Elles n'ont pas été aussi vives depuis des décennies. Voilà que les deux rives de l'Atlantique sont sur le point de déclencher des représailles économiques mutuelles que d'habitude on réserve à des adversaires, non pas des alliés. Vincent Hervouet, dans un instant sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 7h39 avec Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h. Excellent début de journée, bon début de semaine.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Après 50 ans de mariage, ma femme c'était mon repère. Autant vous dire qu'à son décès, j'ai été déboussolé. Je ne savais pas vers qui me tourner. Alors j'ai appelé le 32 Urgence Décès. Un conseiller PFG m'a orienté et puis s'est occupé de tout.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 32 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 32, un service PFG.
La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. La fourmi est travailleuse. C'est son côté Ducato.
Tu te trompes, Alphonse.
Pourtant, c'est mon papa qui me l'a prise.
Comment ça ?
Il a un Ducato, mon papa. Et pour lui, c'est comme la fourmi. Pas mieux pour travailler.
La vérité sort toujours de la bouche des enfants. En ce moment, profitez d'une remise jusqu'à 33% sur la gamme Fiat Professional disponible en stock. Fiat Professional, naturellement né pour le travail.
Désormais, Fiat Professional garantit sa gamme jusqu'à 160 000 km ou 8 ans.
Pour Ducato MH de 3 tonnes 3, valable professionnel dans le réseau participant jusqu'au 31 janvier, détails sur fiat.fr.
Je suis ta beauté intérieure. Que souhaites-tu ?
Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco.
Oui.
Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible ?
Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 14 février et exclusivement chez Arkéa.
Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkéa, c'est du sur-mesure pour vous. Voir liste des magasins participants sur arkéa.fr.
Dans la vie, vous pouvez choisir le changement. Tester cette nouvelle coupe de cheveux un peu folle. Rejoindre vos amis au café juste après et attendre qu'ils complimentent. Attendre encore. Ou vous pouvez choisir une Volkswagen, parce que là, vous ne passerez pas inaperçu. Volkswagen, enfin une décision facile à prendre. En ce moment, le nouveau T-Roc est à partir de 229€ par mois.
Nouveau T-Roc 9 LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 000 euros, puis 36 loyers de 229€ si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 janvier, conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lidl, ça vaut le coup. Les soldes qui continuent chez Lidl avec jusqu'à moins 75% de réduction, ça vaut carrément le coup. Bonne nouvelle, c'est les soldes chez Lidl. Retrouvez de nombreux produits remisés, comme le découpeur plasma Parkside à 59€ seulement avec Lidl Plus, au lieu de 149€ à moins 60%. Lidl, ça vaut le coup. Garantie 3 ans, 1,32€ d'éco-participation. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Il est 7h41, vous écoutez Europe 1 Matin avec Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h. Et place aux signatures d'Europe 1.
Dans 10 minutes, votre édito politique. On parlera du retour au Sénat des textes sur la fin de vie pour Vincent Trémollet de Villers. Derrière la compassion affichée pour les personnes qui souffrent, attention au danger d'une logique économique à l'œuvre si l'on ouvre le droit à l'euthanasie. Vincent, dans 10 minutes. La revue de presse d'Europe 1 arrive également. Les grands titres du jour. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour mon cher Dimitri. Moi je vais vous parler de scandale ce matin dans le football, au Groenland et à la Française des Jeux.
Ah, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Vincent, vous revenez sur les menaces de Donald Trump. Si le Groenland n'est pas intégralement vendu aux États-Unis, il promet d'infliger une surtaxe de 10% dès février, puis 25% en juin, aux pays européens comme la France, qui y ont envoyé des militaires en éclaireur.
Oui, Donald Trump débarque après-demain au Forum de Davos. C'est le titre de la manifestation et cette année, l'esprit de dialogue. Alors, ce n'est pas sa spécialité. Avec les Européens, l'heure est au rapport de force, pas à la célébration de l'Occident, aux provocations calculées, pas aux protestations d'amitié. À l'écouter, les Européens qui ont envoyé 3 douzaines de soldats piétiner avec leurs Rangers la neige du Groenland, ils sont allés dans un but inconnu. Ils se sont livrés un jeu très dangereux, ils ont pris un risque inacceptable. On se demande bien lequel a pas froissé sa vanité. On comprend qu'il veut leur faire payer ce défi au prix fort. Les Européens ont réagi par un communiqué pour afficher leur unité. Quelques phrases bien senties sur les menaces douanières qui sapent les relations transatlantiques. Ils parlent d'un engrenage dangereux. En politique, c'est un pléonasme, tous les engrenages sont dangereux. Ils promettent de rester unis, c'est un vœu pieux, et même de défendre leur souveraineté, et c'est évidemment là que le bât blesse.
Mais pourquoi ?
Mais la seule unité des Européens face aux États-Unis, c'est dans la soumission. Et encore, ils rivalisent en général pour être le meilleur ami de l'Amérique. On peut relire toute l'histoire de la construction européenne. On cherchera en vain un contre-exemple. Jeudi, un sommet européen extraordinaire devrait se tenir à Bruxelles. S'il refuse le fait accompli américain au Groenland, ce sera vraiment extraordinaire, ce sera historique, sans précédent. Il y aura là les 8 qui ont envoyé des soldats au Groenland, dont le Danemark, qui n'a jamais rien refusé à Washington, même pas de laisser espionner les dirigeants européens sur son sol, et qui découvre avec effarement que son maître lui fait les poches. Il y aura tous les autres qui ne sont pas visés par les surtaxes douanières. Ils prêcheront la modération, l'esprit de dialogue, comme on dit en Suisse, et avec des raisons nobles en plus. Après tout, quelle est l'urgence stratégique ? La nationalité de 50 000 Inuits ou d'éviter la capitulation de l'Ukraine si Donald Trump cesse de lui livrer des armes.
Alors Emmanuel Macron a brandi ce qu'on appelle le bazooka commercial. Il va demander l'activation de l'instrument anti-coercition s'il y a effectivement de nouveaux droits de douane.
Il s'agit de limiter les importations, de bloquer les investissements, les accès au marché public d'un pays qui chercherait à interférer dans les choix souverains d'un État membre. Et à vrai dire, c'est exactement le cas.
Oui.
Emmanuel Macron aime être en pointe, mais il risque d'être désavoué, de se tirer au bazooka dans le pied. Il faut la majorité qualifiée au Conseil. Hier, Ursula von der Leyen a signé officiellement le traité avec le Mercosur. La France n'a pas réussi à s'y opposer. L'Allemagne a obtenu ce qu'elle voulait face aux États-Unis. Elle prétendra réfréner maintenant les ardeurs de l'Élysée. Elle a déjà rapatrié l'unique officier qu'elle avait envoyé au Groenland. Cela dit, l'Europe a des atouts naturels à Washington qui n'ont aucun intérêt à une crise, que ce soit les GAFAM ou le lobby militaro-industriel, et tous ceux au Congrès qui trouvent que le bilan n'est guère flatteur en ce début d'année. Donald Trump a reculé en Iran, il est à l'arrêt à Caracas, au point mort en Ukraine et dans l'impasse à Gaza. Au Groenland, seul cet esprit de dialogue peut lui éviter de déraper sur le verglas.
Oui, esprit de dialogue, c'est le thème du forum de Davos qui commence cette semaine, Vincent Hervouet. Je sais que vous l'avez remarqué, c'est pour ça que vous l'avez dit deux fois dans votre édito ce matin.
Exactement. Vous ne dormiez pas, vous écoutiez vraiment.
Mais oui, tout à fait, toujours. Merci beaucoup.
On ne dort pas quand on vous écoute, Vincent Hervouet.
Signature Europe 1, ainsi va le monde. Merci beaucoup, Vincent Hervouet. 8h moins le quart sur Europe 1.
Europe 1. La revue de presse sur Europe 1 avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
La revue de presse d'Europe 1 à présent, Olivier Delagarde. On parle football ce matin.
Oui, il y a d'abord la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'est achevée hier en vaste pantalonnade sur fond d'incidents de tout genre et de scandales liés à l'arbitrage. J'y reviendrai longuement tout à l'heure, 8h45. Mais il y a aussi ce papier édifiant sur ce qui se passe dans la petite équipe de Fontenay-aux-Roses en région parisienne. Ce n'est pas dans l'équipe que vous lirez ce papier. Ouh là là, que non, pas d'histoire, pas d'amalgame. Hein. C'est dans le Figaro. Dans ce petit club, on encourageait les enfants à prier Allah avant les matchs lors d'un déplacement pour une rencontre. L'un des entraîneurs a aussi vérifié les pique-niques et jeté les sandwichs qui contenaient du jambon, raconte Paul Sugy. Le père d'un jeune footballeur témoigne. Au club, il y a un entre-soi. Pour se saluer, il faut dire salam alaikum et pas bonjour. Et lorsqu'il y a un apéritif, on ne doit apporter que du halal. Il mélange en permanence le sport et la religion. Ils, ce sont les responsables du club, proches des salafistes, un club des Hauts-de-Seine, abandonné au communautarisme religieux. Vous lirez ça donc dans le Figaro. Et on reste dans les Hauts-de-Seine avec ce qui se passe maintenant à la mairie de Colombes. C'est le Parisien qui consacre un intéressant et courageux article sur l'entrisme politique. « J'en ai marre de ce sujet, tempête le maire écolo de Colombes. Vous n'avez pas de preuves », dit-il au journaliste avant de raccrocher. « En fait, si », raconte Thomas Poupeau. « Il y a des faits, comme l'éviction récente du directeur de cabinet de la mairie qui confondait la ville et l'école coranique qu'il dirige. L'État s'inquiète d'un islam municipal et des listes communautaires », explique le journal, qui s'empresse d'ajouter que le phénomène reste à ce stade très minoritaire. Ouh là là, surtout pas d'amalgame, surtout ne pas faire le jeu du Rassemblement National. Reste que ces listes communautaires apparaissent. Elles se présentent sur la base d'une affiliation spécifique, notamment religieuse, et le droit offre peu d'outils pour s'opposer à ce mouvement.
Sinon, l'actualité ce matin, c'est la crise groenlandaise.
Oui, avec une question finalement. Les Européens auront-ils le courage cette fois d'avoir une politique de fermeté vis-à-vis de Donald Trump? Alors sur le sujet, les avis sont partagés. À la une de l'opinion, Claude Leblanc estime que c'est mal barré. Le journal se fait les échos des propos du Premier ministre norvégien qui a déclaré qu'il fallait bien réfléchir afin d'éviter une guerre commerciale. Ouh là là, les Allemands, quant à eux, ont déjà rapatrié les quelques soldats qu'ils avaient dépêchés sur place en raison des conditions météo. Rire.
C'est pas vrai.
Ce n'est plus un corps expéditionnaire, mais un week-end en coup de vent. Mais le Figaro est plus optimiste. Les Européens haussent le ton, titre le journal. Après une année de Trump au pouvoir, les 27 semblent prêts à répondre de manière beaucoup plus ferme que l'an dernier lors des transactions commerciales qui se sont soldées par une capitulation peu glorieuse de l'Union européenne, écrit aussi Karl de Meyer, le correspondant des Échos à Bruxelles. Et dans ce nouveau contexte, il semble acquis que le Parlement européen, poursuit-il, n'approuvera pas, comme il devait le faire, les engagements d'abaisser à zéro les droits de douane sur les produits industriels américains.
On termine par un coup de gueule ce matin.
Parce que d'ores et déjà, une institution française s'est couchée, si ce n'est devant les États-Unis, en tout cas devant la langue américaine. Parce que la Française des Jeux, c'est elle, vient de changer de nom. Et ils se sont payés des pages de pub partout pour le faire savoir. Et Alain Raymond, dans La Croix, s'indigne. C'est pas le jeu à gratter qu'il démange, hein. C'est la nouvelle appellation Française des Jeux United. Pourquoi United? Comme United States? Comme United Airlines, interroge-t-il? C'est moderne, c'est dynamique, c'est mondial, mais ce n'est pas français. Et en plus, ça ne veut rien dire du tout, juste à dire qu'on jette à la poubelle le côté français de FDJ. Voilà, les grandes défaites commencent par de petits renoncements. Et comme dirait l'autre, avec ce tirage-là, 100% des perdants auront tenté leur chance.
Mais c'est parce qu'ils s'internationalisent et ce sera United à l'international, voilà.
Mais allez-y, mais encouragez-les.
Mais je vous explique, moi, les stratégies commerciales. Oh là là.
C'est Fachoda, merci le Kébir, vous êtes un traître.
Mais dis donc, c'est le lundi de la déprime là pour Olivier Delagarde.
C'est le Blue Monday.
C'est le Blue Monday d'Olivier Delagarde.
Merci beaucoup Olivier Delagarde, votre vie de presse revient à 8-9h moins le quart. Dans un instant, votre édito politique, Vincent Trémollet de Villers, juste après le journal permanent, Théo Grévin.
39 morts, plusieurs dizaines de blessés graves, le bilan s'aggrave en Espagne. Hier soir, un train a déraillé dans le sud du pays avant d'entrer en collision avec un autre train qui circulait sur une voie adjacente. Le choc extrêmement violent a projeté des wagons hors des rails. 49-3 ou ordonnance, faute de compromis sur le budget, Sébastien Lecornu dévoilera sa préférence au terme d'un conseil des ministres prévu ce matin. En passe d'obtenir un accord de non-censure avec les socialistes, le Premier ministre a précisé l'effort demandé aux entreprises. Près de 300 groupes vont être mis à contribution. 5 départements du sud de la France en vigilance orange pour des risques de fortes pluies et d'inondations. Les écoles resteront fermées aujourd'hui dans l'Aude. À Narbonne, les habitants de 2 quartiers ont dû être évacués. Et puis du tennis, coup d'envoi ce week-end de l'Open d'Australie. Pour la première fois de sa carrière, le Français Quentin Alice se qualifie pour le deuxième tour du tournoi. Aujourd'hui, le tricolore Hugo Humbert affrontera le numéro 8 mondial, l'Américain Ben Shelton.
7h-9h, Europe 1 matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa,
bonjour Vincent.
À tous. Vincent, demain les deux textes sur la fin de vie reviennent au Sénat. Alors on croyait que la Chambre haute serait prudente, exigeante, scrupuleuse. En commission, elle a été conciliante avec la possibilité de l'euthanasie et du suicide assisté et, disons-le, expéditive. Êtes-vous surpris Vincent ?
Déçu Dimitri, hein, profondément et choqué. Les soignants, les directeurs d'EHPAD, les personnes handicapées, le monde de la psychiatrie, tous ces gens qui attendaient beaucoup des sénateurs ont peur d'être sacrifiés par la Chambre haute. À quoi sert le Sénat s'il n'est pas le refuge de la prudence et de la sagesse? Eh bien, il ne sert à rien. Il faut espérer que les sénateurs montreront durant le débat qu'ils n'ont pas renoncé à leur rôle de vigie de la société. Ce texte sur le suicide assisté et l'euthanasie divise et heurte les consciences de tout un pays. Et comment ne pas être tourmenté quand on lit la note rédigée par Agathe Barrois pour la Fondapol et qui dit l'inquiétude des personnes porteuses de handicap. Cette jeune et brillante normalienne, lourdement handicapée, s'inquiète d'un texte qui, je la cite, privilégierait l'autodétermination individuelle sur la prise en charge des personnes vulnérables. Ce texte produirait des effets dévastateurs sur les personnes en situation de handicap et ferait évoluer notre société dans un sens inavouable. Mmh. Ce sens inavouable dont parle Agathe Barrois, c'est tout simplement la logique d'une politique eugéniste. Empêcher une telle monstruosité, c'est un devoir moral, c'est un impératif d'humanité. Les mélancoliques, les handicapés, les vieillards, les malades incurables ne sont pas un poids, mais le sel d'une société.
Mais les sénateurs veulent multiplier les garde-fous pour justement éviter ces dérives, Vincent.
En commission, ils ont accepté le principe d'une aide active à mourir, c'est-à-dire le principe du suicide assisté et de l'euthanasie. L'acceptation du principe entraîne inévitablement l'élargissement de l'usage. Il n'y a pas un pays dans le monde où ça ne s'est pas passé comme ça. Alors il est évident que le mystère des derniers instants, c'est toujours des cas particuliers, des zones grises, des dilemmes tragiques. Mais le grand danger de la légalisation, c'est qu'elle soit emportée dans une mécanique économique absolument effrayante. Il faut lire à ce sujet une autre note de la Fondapol. Le think tank de Dominique Régnier sur ce thème de la fin de vie fait vraiment un travail remarquable et salutaire. Cette note nous rappelle que notre État est en faillite et que notre système de santé est exsangue. Et c'est vrai, l'accès aux soins est un parcours du combattant. Une grande partie des Français n'a plus de médecin traitant. Pour voir un spécialiste, il faut parfois plusieurs mois. La douleur n'est pas suffisamment prise en charge. La psychiatrie, essentielle pour le discernement des patients en fin de vie, est aux abois. Une dizaine de départements ne comptent aucun praticien en psychiatrie. Dans le même temps, les complémentaires santé militent activement pour la légalisation de l'euthanasie. Comment ne pas voir que tout est en place pour qu'une logique économique visant à réduire les derniers mois de l'existence qui sont les plus coûteux s'installe dans notre pays. En France, 500 personnes meurent chaque jour sans avoir bénéficié des soins dont elles auraient eu besoin. Et on voit bien que ce seront les plus pauvres, les plus éloignés des grandes villes, les plus isolés socialement, qui, si l'euthanasie est possible, subiront une pression économique et morale pour demander à l'État qu'il abrège leurs existences.
Donc pour vous, l'actuelle législation, la loi Claeys-Leonetti de 2016 suffit, Vincent?
En fait, il y a deux textes sur la fin de vie. Ce qu'il faut, c'est les disjoindre. Le premier sur le soin palliatif fait consensus. Il faut évidemment qu'il soit voté et vite. Il faut ensuite qu'il soit appliqué.
Oui.
Aujourd'hui, 22 départements ne disposent toujours pas d'unité de soins palliatifs. Trois autres qui en sont pourvus ont moins d'un lit pour 100 000 habitants. Alors, une fois que chaque Français pourra compter sur la médecine palliative, on pourra reprendre ce débat, mais on verra qu'il n'aura plus beaucoup de sens. Le faire avant, cela consiste à mettre la mort avant les soins.
L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, le Groenland face à Donald Trump, les Européens haussent le ton. Merci beaucoup Vincent, bonne journée.
Il est 8h05, excellent début de journée avec Europe 1 matin et Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h. Nous sommes le lundi 19 janvier.
Dans un quart d'heure, la grande interview Europe 1 CNews face à Sonia Mabrouk ce matin, ce sera le député RN du Nord, Sébastien Chenu. Après votre journal, la météo et le saint du jour sur Europe 1. Mais t'as vu qu'il n'y en a pas beaucoup dans le pays. Saint-Germain Manicus.
Ah
à
oui,
tout
non,
de suite.
Il n'y en a pas beaucoup.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Peugeot.
Ah, tu l'as enfin changé ton utilitaire.
Oui, neuf, bien équipé et sans apport.
Sérieux? Même pas d'apport?
Zéro, juste des mensualités claires. Je garde ma trésorerie pour mon activité, pas pour mon véhicule.
Avec Peugeot, démarrez l'année sans compromis. Une flotte moderne, votre trésorerie préservée et maintenant jusqu'à 8 ans de garantie. Jusqu'au 31 janvier, le Peugeot Partner est à partir de 235€ hors taxes par mois, sans aucun apport.
Crédit bail 60 mois, 50 000 km sans apport pour un partenaire, réservé aux professionnels sous réserve d'acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care, conditions sur Peugeot.fr.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous vouliez me voir, François ?
Oui, Cerise. Vous savez, j'ai des projets d'avenir et j'aimerais mettre de l'argent de côté. Mais chez Groupama, c'est pas vraiment votre cœur de métier.
Détrompez-vous. Si on sait assurer votre auto ou votre domicile, nos conseillers vous proposent aussi des solutions d'épargne adaptées à vos projets.
Ah vraiment, Cerise ?
Oui. En plus, en ce moment, jusqu'à 200€ sont offerts pour toute souscription d'un contrat d'assurance vie.
Groupama.
Groupama. Toujours là pour moi.
Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupama.fr.
Si je te dis Dolce Vita.
Fiat.
Si je te dis pot de yaourt.
500.
Si je te dis branché.
Électrique.
Non, si je te dis branché.
Bah, 500.
Mieux, la nouvelle 500 hybride.
Évidemment, 500. Toujours branché, sans être branché.
Nouvelle Fiat 500 hybride à partir de 159€ par mois et garantie jusqu'à 8 ans. Pour 500 hybride Pop LLD 49 mois 40 000 km, apport 2800€ sous condition de reprise. Reprise EcoFiat de 500€ déduite, c'est accord crédit par jusqu'au 31 janvier. Détailler conditions sur fiat.fr.
Fiat. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Geneviève a 80 ans. Elle a passé quelques jours à l'hôpital après avoir glissé chez elle. Son mari Bernard organise son retour à la maison, mais il se perd dans les démarches complexes. Le lendemain, il fait appel à Petit-Fils pour l'aider. Rapidement, une auxiliaire de vie douce et expérimentée rejoint leur quotidien. Grâce à elle, Geneviève a retrouvé le confort de sa maison et ses petites habitudes. Quant à Bernard, il souffle enfin, rassuré de ne plus être seul pour prendre soin de sa femme.
Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées.
Toyota.
Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
La baguette ? Le croissant ? Non, la Toyota Yaris Cross Hybride.
Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
Et elle n'a jamais été aussi accessible. Pendant les reprises fantastiques, la Toyota Yaris Cross Hybride est à partir de 239 € par mois, entretien inclus. Yaris Cross Hybride dynamique blanc pur à partir de 239 € par mois, LLD 37 mois, 30 000 km, entretien inclus. Premier loyer, 4 390 € réservé aux particuliers dans le réseau participant jusqu'au 2 février sous conditions de reprise. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Nous fêtons ce jour Saint Germanicus, un saint du 2e siècle, un romain comme son nom vous l'indique, disciple de Saint Polycarpe, grand évêque de Smyrne, qui est dans l'actuelle Turquie. Germanicus mourut en martyr pour sa foi au temps de l'empereur Marc-Antonin. Alors c'était dans la ville de Philadelphie, qui n'était pas encore une cité américaine, c'était la cité d'Asie mineure. Philadelphie qui signifie amitié fraternelle. Vous voyez, on apprend toujours quelque chose avec le saint du jour sur Europe 1. On passe au temps. Anissa Dadi, après un week-end pluvieux dans le sud, ce lundi s'annonce très agité, 5 départements en vigilance orange.
Oui, effectivement, on a un épisode méditerranéen qui est assez fort depuis 72 heures maintenant. Il pleut de manière très fréquente, très soutenue sur les départements de l'Aude. Les deux départements corse et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange. Pluie, inondation, l'Hérault et l'Aude en vigilance crue. On a une situation qui est préoccupante dans l'Aude, hein, notamment du côté de Narbonne, où on a les habitants de Maraussan et de Mayol, les deux quartiers de Narbonne qui ont été évacués. Mais dans l'Hérault également, hein, 250 mm tombés depuis 70 heures maintenant à Castanet-le-Haut, par exemple dans l'Hérault, 243 mm à Saint-Sauveur-Campry.